Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier carnet de région de l'année 2013. On se retrouve, comme chaque semaine, pour notre magazine d'actualité proposé par des radios associatives non commerciales du Languedoc Roussillon, un carnet dont Radio Lodev assure la rédaction en ce mois de janvier. Au sommaire cette semaine, la belle aventure des footballeurs de Mende en Coupe de France qui se poursuit. La loi SRU impose 20% de logements sociaux aux communes. Elle devrait être révisée en juin. On en parle avec le vice-président communiste de la région Languedoc-Roussillon qui, à l'époque, a créé cette loi alors qu'il était ministre de Lionel Jospin, Jean-Claude Guesso. En ce début d'année, plusieurs communes vont procéder au recensement de leur population. Comment ça marche, à quoi ça sert? Nous irons voir du côté de Clermont-Lérault. La maladie de Lyme, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, cette maladie transmissible par les piqûres de tiques se propage de plus en plus, notamment dans les Cévennes. Nous reviendrons sur une sensibilisation au braille qui s'est déroulée pendant 2 journées à Montpellier cette semaine à la médiathèque de Pierrevive. Nous irons au lobby sur la commune de Saint-Étienne du Val-d'Aunais en Lozère où un agriculteur connaît un problème récurrent à cause des sangliers. Enfin, direction Carcassonne où cette semaine était présenté le concours gastronomique Aude Gourmande. Une fois n'est pas coutume, nous allons démarrer ce carnet par du football. Et une belle histoire, dans 2 semaines ont lieu les 16e de finale de la Coupe de France et cette année, le petit poussé est lozérien. Il s'agit de l'Avenir Foot Lozère, le club de Mende. Pour se qualifier dimanche dernier, l'équipe qui évolue en division d'honneur régionale a éliminé Arles-Avignon, un club de Ligue 2. Pour le carnet de région, Ludovic Thérol de 48 FM était sur place, dans une ambiance on s'en doute de fête.
C'est devant 2700 spectateurs, record battu, que l'Avenir Foot Lozère est entré dans l'histoire pour sa première qualification en 16e de finale de la Coupe de France. Et l'exploit n'est pas mince car c'est seulement la 2e fois de l'histoire de cette compétition qu'un club de division d'honneur régionale parvient en 16e de finale et seulement la 5e fois qu'un club élimine une formation qui évolue 5 divisions au-dessus. C'est dire l'exploit réalisé par les joueurs mendois. Une victoire contre le club de Ligue 2 d'Arles-Avignon, 2-0, 2 buts du capitaine de l'AFL Fadil Gourma à la 18e et à la 90e minute.
Trop dur, mais ça vaut le coup, putain. Ça vaut le coup. Je sais pas, on va s'arrêter, hein. Incroyable. Ah, on a... Encore une fois, hein, on se répète peut-être, mais... Solidarité, hein. On a su faire les efforts ensemble. Jusqu'au bout, ça a été très compliqué. La deuxième mi-temps a été dure, trop dure. Mais voilà, ça vaut le coup, putain.
Et si Fadil Gourma a marqué les 2 buts qui qualifient son équipe, l'homme du match est peut-être à aller chercher du côté du gardien mendois, Destin Onka, qui a sorti tout au long du match des parades exceptionnelles pour maintenir son équipe à flot.
Non, l'homme du match, je pense pas, mais on a été solide. C'est ce qu'on s'était dit, fallait être costaud, fallait jouer à 200% et c'est ce qu'on a fait. On a eu la chance que Fadil ait des opportunités et qu'il nous a mis 2 buts et il a libéré tout ce public. Oui, on savait que c'était là leur point fort, qu'ils jouaient avec des longs ballons. Alors c'était à moi de m'imposer et c'est ce que j'ai fait ce soir. Jusque-là, non, on ne réalise pas, mais on va déjà savourer, après on verra après.
Un exploit qui n'a pas laissé insensible Stéphane Sora, l'entraîneur de l'AFL.
Je pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, quoi. Ah ouais, là, cette fois-ci, ça sera le premier 16e. Moi, j'en ai jamais fait en tant que joueur des 16e. Et je peux vous dire, je suis content d'eux et je suis content que ça arrive à des mecs comme eux, quoi. C'est des bons mecs, vraiment, des bons mecs, des grands mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un moment de pur bonheur, de pure joie, de partager ça avec le public, avec les gamins du club, de l'école de foot. Bien sûr que je suis très heureux, quoi. Il n'y a pas de mots, là.
Une consécration pour Franck Boutet, président de l'AFL.
C'est une consécration, hein. 16e de finale pour un club amateur comme nous, je crois que c'est unique. Hein. Battre une équipe professionnelle, c'est exceptionnel. Voilà. On s'imagine jamais qu'on va gagner 2-0. Comme pour les tours précédents, on s'est dit on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et tout peut arriver avec l'équipe qu'on a. On sait que plus ça dure dans le temps et plus les équipes en face doutent. Et nous, voilà. Et nous on espère. Après, bon, la première action construite du match, on marque. On a beaucoup de réussite et un gardien de but extraordinaire aujourd'hui. La recette du succès, c'est un esprit de famille, un esprit de groupe extraordinaire.
Et si l'avenir Foot Lozère espérait recevoir un club de Ligue 1 en 16e de finale, c'est encore une Ligue 2 qui se dressera sur le chemin des Lozériens. Il s'agit quand même du club doyen des clubs professionnels, Le Havre. Il ne reste plus qu'à l'AFL qu'à gagner son match contre Le Havre pour entrer encore plus dans l'histoire de la Coupe de France.
Et le match face au Havre, club de Ligue 2, se jouera à Mende au stade Jean-Jacques Delmas le mardi 22 janvier à 18h30.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
20% de logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants, tel est l'objectif d'un des piliers de la loi SRU datant de 2002. Un peu plus de 10 ans plus tard, malgré la crise du logement en France, certaines communes, comme dans l'Hérault Saint-Clément-de-Rivière, préfèrent payer des pénalités que d'appliquer la loi. Le gouvernement actuel prévoit de réviser la loi SRU, notamment sur le pourcentage de logements sociaux obligatoires. Le père de cette loi, Jean-Claude Guessot, à l'époque ministre de Lionel Jospin, aujourd'hui vice-président communiste du Conseil régional du Languedoc-Roussillon, reconnaît lui-même au micro d'Adrien Delgrange de Radio Pays d'Hérault qu'il faut améliorer le dispositif.
Un, il s'avère qu'à l'expérience, certaines villes ou certains gros bourgs préfèrent ne pas les faire, quitte à payer des amendes. Et du coup, on se retrouve avec une crise du logement et de par là aussi avec une crise de l'emploi, puisque, disons, la création de logements entraîne des créations d'emplois. Aujourd'hui, le gouvernement, Madame Duflot, est lancé sur cette perspective de monter l'obligation, c'est-à-dire pas simplement 20%, mais 25%, un quart, des logements offerts comme logements sociaux et pour toutes les catégories de gens. Je veux dire, on croit toujours que le logement social c'est pour que pour les plus démunis. Non, c'est pour 75% des ménages. Je le dis parce que ça, personne n'en parle. Donc 75% des ménages devraient pouvoir accéder s'ils le souhaitent. Un moment dans leur jeunesse ou ainsi de suite aux logements sociaux. Donc, un, augmenter les sanctions, augmenter l'obligation de logement, des logements sociaux, et puis alors travailler à ce que également on puisse faire en sorte que, en lien avec la lutte sur les problèmes environnementaux et l'énergie, on fasse des logements sociaux économes en consommation d'énergie, c'est-à-dire avec l'efficacité énergétique. Et là, le gouvernement et François Hollande s'est prononcé là-dessus pour 1 million de logements qui devaient être rénovés pour l'efficacité énergétique.
Comment contraindre les mairies qui n'appliquent pas la loi SRU ?
D'abord, les contraintes, il y a les sanctions. Moi, je serais de ceux qui obligeraient à aller au-delà, y compris des sanctions financières, dans la mesure où c'est délibéré. Un refus d'appliquer la loi devrait conduire, y compris, alors bon, c'est pas ce qui est proposé, hein, mais ça je vous dis ma pensée à moi, devrait conduire à, à des sanctions qui soient, y compris, qui puissent aller jusqu'à l'interdiction d'être candidat aux élections.
La révision de la loi SRU, appelée Duflot 2 du nom de la ministre du Logement, devrait être présentée en Conseil des ministres en juin prochain pour être votée à l'automne. Alors, que fait la région en la matière, même si le logement social n'est pas dans ses compétences obligatoires? On écoute Jean-Claude Guessot.
C'est des dizaines de milliers de logements sociaux qu'il faut réaliser en Languedoc-Roussillon, d'autant plus que notre région est attractive. Tous les 3 ans, il y a une ville de 120 000 habitants de plus en Languedoc-Roussillon. C'est l'équivalent d'une ville, et en particulier sur le littoral, et en particulier dans l'Hérault. Les gens viennent. Donc, il faut du logement. Il faut du logement. Sinon, c'est la crise du logement. Et y compris l'immobilier qui monte, le foncier, etc. Donc, la région s'est engagée, y compris en soutenant partout où il y a la réalisation de 25% de logements sociaux avant que le gouvernement le décide. Nous, avec Prêche et avec Christian Bourquin, on l'avait décidé. Et nous avons mis en place aussi ce qu'on appelle un établissement public foncier, qui permet d'aider les collectivités locales, disons de telle sorte que le terrain pour bâtir les logements sociaux, eh bien, leur coûte moins cher que si c'était dans le domaine du privé.
Jean-Claude Guessot, à l'époque ministre de Lionel Jospin, aujourd'hui vice-président communiste du Conseil régional du Languedoc-Roussillon. En ce début d'année, plusieurs communes vont procéder encore au recensement de leur population. On s'arrête à Clermont-l'Hérault, qui fait partie de la cohorte 2013 de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Alors, le recensement, comment ça marche? À quoi ça sert? Réponse de Myriam Sauvert, la directrice générale des services de la mairie de Clermont-l'Hérault.
Ce recensement pour une collectivité, c'est quelque chose d'extrêmement important, car ce sont les chiffres effectivement donnés par le recensement qui nous permettent de pouvoir à la fois bénéficier et solliciter tout l'aspect financier en matière de dotation, subvention, fiscalité attribuée donc à la collectivité. C'est également extrêmement important car la strate démographique va nous permettre de pouvoir aussi définir un certain type de politique, moins de 10 000 habitants, plus de 10 000 habitants, c'est important pour nous. C'est également important en ce qui concerne toute la politique d'urbanisation de la commune, puisque cela nous permet à la fois de pouvoir prévoir et anticiper de l'accueil de nouveaux habitants, puisque sur Clermont-l'Hérault, nous avons effectivement la confirmation que la tendance effectivement est à la hausse en ce qui concerne la démographie et l'accueil des habitants. Donc au-delà de l'urbanisation, donc de l'ouverture de certains quartiers, il nous appartient également de prévoir et d'anticiper sur la mise en œuvre d'équipements publics, écoles, voiries, réseaux, et en fonction de la nature de la population et de la composition sociologique de la population que nous découvrons, on ajuste là aussi en fonction des besoins, petite enfance, troisième âge, etc.
Et lors du dernier recensement, la ville de Clermont comptait 7627 habitants, c'est en 2008, une population qui devrait être à la hausse. La commune devrait, avec ce nouveau recensement, approcher les 8000 habitants.
Nous avons donc recruté au niveau de la commune 18 agents recenseurs, convoqués et conviés à une réunion donc de présentation générale ce matin, sur lequel donc nous revenons et insistons beaucoup sur l'intérêt de la mission et l'importance que ça revêt effectivement en matière de conséquences pour la commune pour les années à venir. Et donc ces agents vont se retrouver donc à intervenir directement sur le terrain, après deux journées de formation donc dispensées par l'INSEE, après une retournée de reconnaissance, une carte d'accréditation donc pour le compte de la ville avec une photo leur sera délivrée qui leur permet de rentrer effectivement au domicile des personnes recensées, sachant qu'il s'agit d'une obligation et que donc la réponse au recensement est obligatoire. Donc nous demandons aux agents recenseurs de travailler avec le plus d'efficacité, le plus de courtoisie, le plus de persuasion possible, bien évidemment aussi, en précisant que toutes les données formulées et rendues donc sur la base d'imprimés préétablis par l'INSEE sont d'ordre exclusivement statistique, confidentiel. La mairie, en l'occurrence, sur cette opération-là, exerce cette activité pour le compte de l'INSEE et de l'État. Et donc, tous les éléments qui sont donnés sont retraités à un autre niveau et en aucun cas ne seront effectivement des éléments d'information qui seront retenus par la mairie.
Et l'on précise bien que ce recensement, il est obligatoire et confidentiel, réalisé par les communes qui font ensuite remonter les données à l'INSEE. Pour les communes de moins de 10 000 habitants concernées cette année, il aura lieu du 17 janvier au 16 février. On parle maintenant de la maladie de Lyme, connue aussi sous le nom de boriélose, une maladie transmissible par les piqûres de tiques, présente dans 65 pays. Elle est devenue la plus fréquente de toutes les maladies vectorielles transmises à l'homme dans l'hémisphère nord. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les spécialistes considéraient que la tique qui transmet la maladie n'était pas présente dans le sud de la France. Un constat aujourd'hui remis en question. En effet, de plus en plus de cas sont observés dans notre région, dans les Cévennes notamment. Du côté du Vigan, l'association Graines d'Humeur a décidé d'informer la population en organisant une réunion avec trois médecins spécialistes de la question. Laetitia, bénévole de l'association, nous explique leur démarche.
Une association qui a été créée en 2009 à Saint-André-de-Magencoul et qui a pour vocation de faire de l'information sur la santé et l'environnement. Et donc on organise tout au long de l'année des conférences, des projections de films et des ateliers de naturopathie. Moi, j'aide surtout à l'organisation des conférences, des projections, la communication. Et sinon, il y a également Valérie qui est naturopathe et qui anime des ateliers. Et l'essentiel, en fait, de notre de notre travail, c'est surtout de faire venir des intervenants qui sont spécialisés sur certaines questions. Et puis également, on essaye de créer un centre de documentation pour mettre à disposition des personnes des livres, des comptes rendus de conférences, des revues sur les questions de santé, dans l'optique de préserver sa santé par des moyens naturels. Et la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est transmise par les tiques aux animaux et à l'homme. Donc ces tiques sont porteuses d'une bactérie, la Borrelia, qui va transmettre donc cette maladie. Et cette maladie génère par la suite des troubles très invalidants à long terme et qui sont souvent difficiles à diagnostiquer. C'est pour ça que c'est important d'avoir des informations en amont pour faire de la prévention, pour savoir comment retirer la tique sans que le fait de la retirer introduise la maladie. Et puis pour pouvoir aussi poser des diagnostics très tôt, parce que quand le diagnostic est posé tôt, ça se soigne très bien. Et si on passe à côté, c'est là justement qu'il va y avoir tout un tableau de symptômes qui vont rendre difficile le diagnostic. Voilà, donc la soirée, il y aura un diaporama et puis ensuite des échanges questions-réponses. On est quelques personnes à avoir rencontré d'autres personnes qui sont porteuses de cette maladie, des personnes qui vivent ici depuis longtemps, notamment des agriculteurs. Et donc on est en train de se poser la question si justement il n'y aurait pas réellement cette bactérie qui serait présente dans le sud. Ça s'expliquerait notamment par le fait, par le tourisme, par le fait qu'il y a des personnes du nord, d'Allemagne, des Vosges qui vont venir en vacances avec leurs chiens, leurs animaux, et que la maladie elle bouge. Voilà, il y aurait aussi des pistes aussi au niveau du réchauffement qui ferait que ça se propage.
Une interview réalisée par Lydia de Radio Escapade. Comprendre le quotidien d'un aveugle, c'était l'objectif de deux journées de sensibilisation au braille cette semaine à la médiathèque de Pierrevive, à Montpellier. Florent de Brito de RCF Maguelone Hérault y était.
Louis Braille aurait eu 203 ans le 4 janvier, un bel âge pour l'inventeur de l'alphabet portant son nom, destiné aux malvoyants. À l'occasion de cet anniversaire, l'agglomération montpelliéraine ainsi que le conseil général ont investi les locaux de Pierrevive. Mardi se tenait une journée à destination des professionnels accompagnant les mâles et non-voyants afin de leur exposer les nouveautés technologiques qui sont de plus en plus nombreuses à destination des handicapés visuels. Hier, c'était au tour d'un public plus large et notamment autour des enfants de se familiariser avec le monde des malvoyants. Des ateliers étaient proposés, nous sommes allés à la rencontre de Yacine ainsi que de Salor Emmanuel qui sortaient tout juste d'un atelier d'initiation au braille.
On a fait des lettres pour les aveugles avec des troncs à bosse, et dès qu'on les fait, on les sort, après on sent les troncs, et ça fait des lettres. C'est facile et un peu dur.
J'ai appris à écrire en braille, et j'ai aussi me fait faire passer pour un aveugle, et avec un accompagnateur, et j'ai aussi aidé quelqu'un à être accompagné, quand lui s'est fait passer pour un aveugle.
Le but de ces ateliers, bien évidemment, confronter les enfants au quotidien d'une personne malvoyante. Par exemple, ils étaient amenés à se déplacer les yeux bandés dans le bâtiment avec une canne blanche. Pas si simple quand on ne connaît pas les lieux. Une confrontation essentielle avec ces réalités pour Marie Pasquier, responsable de l'espace Omer à la bibliothèque Émile Zola, un espace dédié aux non et malvoyants.
Les enfants aveugles, en fait, c'est ceux qui apprennent le braille quasiment au même âge que les enfants qui vont participer aux ateliers qui ont lieu aujourd'hui. C'est important de sensibiliser les enfants, c'est les adultes de demain. Et puis c'est important aussi qu'ils se rendent compte de ce que c'est que d'être différent, d'être handicapé. Et c'est important aussi que quand ils voient un aveugle, un enfant aveugle, ils puissent réaliser en fait toutes les difficultés que cette personne rencontre dans sa vie en termes de déplacement, en termes de communication, de lecture, d'accès à tout en fait. Ils ont des cours pour apprendre le braille et faire de la restitution en fait de ce qu'ils font pendant la journée et d'apprendre en parallèle le braille. Donc ils ont des journées de travail qui sont un peu plus lourdes que des enfants normaux.
Si les ateliers sont dorénavant terminés, l'espace Omer, la bibliothèque Émile Zola, lui, reste ouvert toute l'année, avec des ouvrages et supports adaptés aux enfants et adultes mâles ou non-voyants, pour que la lecture reste un bien ouvert à tous.
Un reportage signé Florent de Brito pour RCF Maguelone Hérault.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Jacques Pradaille est agriculteur au Lobby près de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunaise en Lozère où il gère une exploitation d'élevage de vaches et de veaux. L'été dernier, il s'est rendu compte que la nourriture disparaissait anormalement vite de ses nourrisseurs. Il a pu constater ainsi la présence de sangliers la nuit sur son exploitation. La suite, c'est l'agriculteur qui la raconte au micro de Noélie Guy, journaliste à Radio Intervalle.
Début juillet, j'ai contacté la Fédération départementale des chasseurs de Lozère pour qu'ils viennent se rendre compte de ce qui s'était passé. Donc j'ai eu un agent qui est venu voir sur place. Il m'a répondu qu'il ne voyait pas comment des sangliers pouvaient rentrer dans un appareil de ce style. Puis donc il m'a répondu que de toute façon, la fédération de chasse ne pouvait rien faire parce que la parcelle se situe en zone centrale du parc national des Cévennes. Là aussi, j'ai eu un agent qui est venu voir. J'ai eu à peu près la même réponse, que mon cas était impossible, qu'ils n'avaient jamais vu des sangliers qui rentrent dans un nourrisseur à veau. La discussion s'est un petit peu tendue. Donc pour régler le problème, il s'est proposé de me poser un appareil photo à déclenchement. Et trois nuits, on a fait comme on dit, carton plein. Les sangliers sont venus toutes les nuits. Donc à la tombée de la nuit, vers 22h, jusqu'à 6h du matin, au lever du soleil, les sangliers venaient manger. Donc avec ça, j'ai bien eu la preuve que les sangliers venaient dans mon nourrisseur. Je me suis donc rapproché de nouveau de la fédération de chasse pour essayer de me faire indemniser la perte d'aliments. C'est en gros 4 tonnes. Sachant qu'aujourd'hui, la tonne d'aliments que consomment les veaux, elle vaut 355 euros la tonne. La réponse que j'ai eue de la fédération nationale des chasseurs, de départementale des chasseurs, ils indemnisent seulement des pertes sur culture sur pied. Donc voilà ce que j'en suis aujourd'hui. Donc j'arrive pas à être indemnisé par rapport à ça, puisque ça rentre pas dans leur code rural à eux.
Mais alors, est-ce que vous avez eu des solutions possibles qui ont pu vous être proposées ou vous, est-ce que vous en avez que vous pensez réalisables ?
Moi, j'aurais une solution qui est possible. Aller fermer le nourrisseur le soir et aller l'ouvrir le matin. Ce qui veut dire que c'est à moi à m'adapter au gibier qu'on ne désire pas forcément. J'ai demandé à eux de chercher de leur côté. Ils m'ont dit qu'ils chercheraient aussi. Mais bon, vu le nombre croissant de sangliers, je ne sais pas comment résoudre le problème.
Alors peut-être que certains de nos auditeurs sont confrontés au même problème, parce que c'est vrai que les sangliers s'approchent de plus en plus, que ce soit des exploitations agricoles, mais ça peut être aussi des propriétés, tout simplement, dans les Cévennes, voilà. Même si on essaye parfois de mettre donc des barrières électriques ou des choses comme ça, c'est pas forcément toujours efficace, je crois.
Non, c'est pour ça que bon, je pense que mon cas n'est pas unique sur le Mont Lozère, où les sangliers rentrent dans les nourrisseurs. Alors moi, je pense qu'il faut que tous les éleveurs surveillent un petit peu leurs nourrisseurs, et qui se rendent compte de ce qui se passe dedans. Si quelqu'un a une astuce, une solution, moi, il peut me contacter, je suis prêt à l'écouter. Donc, je peux être joignable sur mon fixe au 04 66 48 04 40 ou sur le portable au 06 72 09 25 11. Par contre, aujourd'hui, je veux quand même bien faire passer le message, j'ai absolument rien contre les chasseurs, au contraire. Les chasseurs, je pense que c'est eux qui nous apportent quelque chose parce que je vois que dans mon secteur, ils en ont tué quand même pas mal. Mais malgré qu'ils en aient tué 30, je suis sûr qu'il en reste encore deux fois ou trois fois cette quantité dans notre petit secteur.
Voilà, et puis sachez qu'après avoir pris connaissance des photos, la FDSEA, le syndicat, s'est saisi de l'affaire. Il réclame l'indemnisation de l'éleveur et plus largement une gestion réelle de la population de sangliers en Lozère et la possibilité d'intervention spécifique sur ce type de cas. Pour l'instant, il n'existe aucune disposition réglementaire pour pallier au problème qui n'est pas suffisamment prise au sérieux, toujours selon le syndicat. Des négociations sont en cours, notamment avec la Fédération départementale de chasse et plusieurs associations pour tenter de trouver une solution. Direction l'Aude pour terminer ce carnet de région avec la présentation du concours gastronomique Aude gourmande qui récompense les meilleurs produits du département, un sujet d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Aude gourmande, 26e du nom, a donc été présentée ce mercredi à la Chambre de commerce de Carcassonne, un concours porté par toutes les chambres consulaires et lancé pour la première fois en janvier. Les explications du président de la Chambre de commerce, Jean Kézergue.
C'est un concours qui détermine quels sont les meilleurs produits de notre territoire dans 43 catégories. L'objectif, c'est de faire sortir, je dirais, de terre et souvent des ateliers de production de nos artisans et de nos industries, les meilleurs produits de notre territoire, donc de les mettre en avant à travers un concours qui sélectionne les meilleurs produits.
Donc c'est tous les deux ans, c'est ça ce concours ?
Alors ce concours a lieu tous les deux ans. Tous les deux ans pour avoir deux saisons pleines d'activités touristiques pour la promotion de ces produits-là auprès de notre clientèle.
Didier Greffier, responsable promotion à la Chambre d'agriculture, nous parle de la finalité de ce concours Eau de Gourmande.
La finalité, c'est pour le consommateur, pour que la brochure Eau de Gourmande et les lauréats et les trophées qui se retrouvent sur cette brochure puissent donc être reconnus, bien évidemment, par les consommateurs locaux, mais aussi les vacanciers qui viennent nombreux sur notre département.
Vous faites partie du comité qui organise, comment on dit ça, un comité d'organisation ?
Oui, tout à fait. Hein. On travaille en interconsulaire, les deux chambres de commerce, la chambre des métiers et la chambre d'agriculture de l'Aude. Et nous avons un comité de pilotage donc, de ce concours. Et on travaille bien évidemment avec des techniciens de toutes les chambres consulaires pour l'organisation de ce concours.
Qu'est-ce qui est la difficulté ? Il faut convaincre les entreprises ou vous en êtes au bout de 26 éditions ? Quel est le travail finalement ?
Alors, l'intérêt bien évidemment, c'est de faire connaître, même si ce concours est bien connu, des entreprises audoises, mais il y a des entreprises qui s'installent, et donc l'intérêt c'est justement de sensibiliser ces entreprises pour qu'elles participent à ce concours, pour qu'elles puissent donc avoir des retours sur ce concours. Donc voilà, le plus important je pense c'est de trouver de nouvelles entreprises, de nouveaux produits.
Laurent Ratia de la coopérative fruitière Somaï Fruits de Salelles d'Aude a déjà remporté le concours de gourmande. C'était en 2010 avec son nectar d'abricot. Pourtant, le meilleur souvenir qu'il garde, c'est sa participation au jury.
Ah ben oui, parce que c'est on découvre l'Aude, quoi. On est assis autour d'une table et on découvre l'Aude dans toutes ses qualités, toutes ses saveurs. C'est pour moi un bon souvenir de gastronomie, effectivement. Moi, je le dis souvent, quoi. On a un département très riche avec la mer, avec l'arrière-pays, avec la montagne. Et donc, une variété très grande de produits et de qualité. Et ça, et faire partie du jury de ce concours, on le confirme largement.
Quel goût il vous reste en bouche de cette dégustation ?
Ah ben moi j'ai beaucoup aimé le cassoulet quoi, j'ai beaucoup aimé le cassoulet.
Lors de la dernière édition d'Eau de Gourmande, une cinquantaine d'entreprises avaient présenté 280 produits. Elles ont jusqu'à la fin du mois pour candidater. La présélection se déroulera mi-mars au CFA de Lézignan. La finale, elle, le 10 avril au CFA de Carcassonne. Les prix seront décernés le 7 mai au cœur de la cité de Carcassonne et sous une forme assez inédite, nous a-t-on dit.
Voilà pour ce sujet d'Éric Boyer de RCF Pays d'Aude.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Ainsi s'achève ce premier carnet de région de l'année 2013, l'actualité en Languedoc-Roussillon, vue par des radios associatives non commerciales. En vous souhaitant une très bonne année, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Au revoir.